C'est arrivé peut-être 2 semaines avant l'UTHC 125 que j'étais supposée courir en 2018. C'est d'ailleurs pourquoi l'UTHC 125 a une aussi grosse importance pour moi, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais aller compléter. Accepter tout ça, ça a été très difficile parce que ça a donné une tournure à ma vie qui était complètement différente. Par contre, dès que j'ai accepté ma blessure, j'ai été capable de vraiment rester positive et puis j'ai focusé beaucoup de mon attention sur différentes choses. Le monde de la course à pied devait être oublié pendant au moins 6 mois. Donc, j'ai focusé beaucoup sur le travail, sur mes relations, la famille, les amis, des choses comme ça. Puis, je pense que à la fin du compte, je suis reconnaissante que j'ai pu enrober ma vie d'autre chose que juste la course à pied, parce que c'est certain que si je m'étais pas cassé la jambe, probablement que j'aurais été vraiment seulement dans la course à pied. Et puis, ça aurait changé là, un peu la trajectoire là, des dernières années, parce que ça m'a quand même pris 4 ans là, revenir pour faire la course que j'avais planifié faire. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de penser là, que ça m'a pris autant de temps.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je vous propose de partir aujourd'hui à la découverte d'une athlète à l'immense talent. Cette athlète québécoise s'appelle Marianne Hogan, elle a signé de prometteuses et retentissantes performances sur les sentiers, en 2017 notamment, avant que des blessures à répétition ne viennent drastiquement bousculer sa trajectoire sportive. C'est après 4 ans de blessures que Marianne a pu finalement renouer avec le plaisir des sentiers sur l'Ultra Trail Aricana au Québec au mois de septembre dernier. Cette course marque son retour tant attendu avec un dossard. Une course qui lui a réservé son lot d'imprévus, pour le pire et bien évidemment pour le meilleur. Plongez avec moi dans ces échanges avec Marianne, une athlète à l'enthousiasme et à l'énergie très communicative. Toujours très généreuse et sans calcul sur les sentiers, elle l'a également été avec moi lors de nos échanges. Fidèle à elle-même. Mais je ne vous en dis pas plus. Marianne va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, à cœur joie. Bonjour Marianne, comment vas-tu? De bon matin?
Bonjour, ça va bien, merci toi.
C'est la forme?
Oui, la grande forme.
Eh bien moi, c'est pas la forme. Moi, il est 6 heures de plus que toi déjà, puisque tu es au Québec, et puis j'ai une nuit compliquée avec les enfants, donc j'ai dormi 5 heures. Mais ça va aller, je suis ravi qu'on puisse échanger et ça me donne une sacrée forme.
Oui, c'est une bonne pratique pour les ultras, les enfants. Ça pratique vivre ta vie sans trop de sommeil.
Eh bien, je peux dire que je suis prêt là. Je peux tout faire. Marianne, je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Il faut dire que j'entends parler de toi depuis très longtemps et en des termes très élogieux, notamment par Nicolas Fréret, que je salue, qui est créateur entre autres du podcast hautement recommandable La Bande à des Plus, ou encore de Mathieu Blanchard, que tu connais de longue date. Rien d'étonnant à ce qu'il érige une statue de Marianne, puisque c'est finalement assez courant en France. Il y en a dans toutes les mairies et dans tous les lieux publics et administratifs, il y a une statue de Marianne. Voilà, je ne sais pas si c'est toi, mais en tout cas, nous, on a des statues de Marianne en France un peu partout. Je ne sais pas si tu savais ça.
Non, je ne savais pas. C'est pas aussi populaire au Québec, je pense.
Bah ouais, parce qu'elle représente en fait les valeurs de la devise liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, c'est elle qui représente la République française finalement. Okay. C'est Marianne. Et ouais, un gros privilège. Marianne, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, on va en parler un peu plus tard. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être d'une façon un peu plus administrative? Quel âge tu as? Où vis-tu? Qu'est-ce qui t'anime en dehors de la course à pied?
Oui. Alors moi, c'est Marianne, j'ai 31 ans et puis j'ai un appartement qui est situé à Montréal, quoique je voyage beaucoup, mais mon pied de base est vraiment au Québec. Je suis allée en fait faire mes études en Californie et puis par la suite, j'ai vécu 3 ans au Colorado, donc j'ai aussi une bonne base là aux États-Unis. Et puis dans la vie, moi, je travaille en ressources humaines, puis je pense que ça englobe beaucoup là, de ce que j'aime beaucoup de la vie. En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime vivre avec d'autres gens, donc je me ramasse beaucoup de l'énergie de d'autres personnes. Donc, je travaille en ressources humaines dans une compagnie TI ici à Montréal, et puis je suis aussi entraîneur avec le coaching du coureur. Donc, encore une fois, j'aime ça beaucoup partager ma passion avec d'autres gens qui se lancent entre elles. Donc, c'est un peu ce que je fais là, à l'extérieur du monde de la course à pied.
On va remonter dans le temps, loin, loin, loin. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais? C'était quoi tes traits de caractère? Est-ce que tu étais une petite fille apaisée, très tonique, déjà très sociable et ouverte aux autres?
Oui, ben, je pense que c'est mon enfance qui a fait en sorte que je suis devenue quelqu'un d'assez sociable. Je suis en fait la plus jeune de 4 enfants. Et puis, on est 4 enfants en 4 ans. Donc,
wow.
C'est sûr que...
Ta maman doit être prête pour plein d'ultra-trails aussi, là, je pense.
Exactement. mais c'était vraiment cool, en fait, grandir. Là, on a grandi dans une petite ville de campagne. Ça s'appelait Bedford, dans les cantons de l'Est, au Québec. Et puis, en étant la plus jeune de 4, j'avais toujours quelqu'un avec qui jouer, avec qui faire du sport. Et puis, on a vraiment grandi là, dans une famille où on n'avait pas le droit d'écouter la télé. On était toujours encouragés à aller jouer dehors. Donc, on a fait tous les sports, là, tu sais, le soccer, le basketball, le dehors avec mes frères. Là, j'ai fait beaucoup de ça. Très rapidement, là, on a commencé à faire des sports tous ensemble. Et puis, je pense que ça a beaucoup guidé la personne que je suis aujourd'hui, en fait, mon enfance.
Le fait que tu sois la petite dernière, ça a voulu me dire qu'il fallait que tu t'imposes un peu plus aussi? Est-ce qu'il a fallu faire ta place plus que les autres?
Oui, il a définitivement fallu que je fasse ma place, mais en même temps, je pense que ça s'est fait de façon naturelle. C'était toujours le... En fait, c'est que je trouve que ce que ça m'a poussé, c'est que je ne suis jamais gênée d'aller voir quelqu'un puis lui demander « Hey, veux-tu faire ci? Veux-tu faire ça? » ou juste rentrer dans les plans des autres. Je suis quand même quelqu'un qui est assez flexible puis qui aime ça justement, se joindre à d'autres plans. Et puis, je pense que vraiment, c'est le fait que j'étais la plus jeune, puis mes frères faisaient quelque chose, puis je faisais juste faire qu'est-ce qu'ils faisaient, puis j'adorais ça, puis j'avais du plaisir avec eux, mes frères et ma sœur, bien sûr. Mais je pense que ça a beaucoup guidé la personne que je suis aujourd'hui.
C'était quoi tes sports de cœur à l'époque?
Ben, on a commencé très jeune, j'ai commencé à faire de la natation. Donc, à l'âge de comme 7-8 ans, là, j'avais commencé par faire du patinage artistique, mais c'était vraiment pas pour moi, là.
C'était le côté patinage ou artistique? Je ne sais pas.
Ben, c'était surtout, moi, j'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'un sport pouvait être... en fait, les gagnants pouvaient être déterminés par des juges. J'avais comme la misère à capter toute cette affaire-là, tu sais, qui rentrait en ligne de compte comme costume, musique, tu sais, des choses qui sont un peu à l'extérieur de toi. Très rapidement, j'ai commencé à nager là, à l'âge de 7-8 ans. Et puis, à travers la natation, j'ai découvert le triathlon. Donc, dans le triathlon, là, j'ai beaucoup aimé ça. Là. En fait, le triathlon, j'en ai fait toute mon adolescence là, jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, ça a vraiment été mes deux sports fétiches, là, la natation et le triathlon, pour éventuellement transférer là, pour tout ce qui est course à pied.
Est-ce que tu peux nous raconter la façon dont la course à pied, plus particulièrement, a trouvé sa place dans ta vie? J'ai cru comprendre que c'était au moment d'un passage en Californie, notamment, en tout cas, là où ça s'est affirmé un peu plus, où tu t'es plus particulièrement consacré au cross-country et l'athlétisme.
Ouais, mais je te dirais que c'est venu quand même à un jeune âge. Tu sais, dans les écoles ici, au primaire, au Québec, là, on a des équipes de cross-country, puis il y a une série de compétitions qui se fait régionale et provinciale là, à travers le Québec par rapport à le cross-country. Et puis moi, j'adorais ça, là. C'était vraiment, tu sais, j'aimais ça, pouvoir compétitionner contre les différentes écoles, les différentes régions, aller aux provinciaux, où est-ce qu'on allait rester dans des écoles tous ensemble pour faire une course de cross-country. Et puis, j'aimais ça aussi à un jeune âge, tu sais, comme en quatrième ou cinquième année, là, je ne me rappelle pas on a quel âge, mais je trouvais ça le fun qu'il y avait une dualité entre les hommes et les femmes. Puis à cet âge-là, quasiment, les femmes ils peuvent être plus fortes que les hommes. Et puis je pense que ça m'a vraiment donné le goût assez rapidement à la compétition, puis juste vouloir donner le meilleur de toi-même. Mais j'aimais beaucoup le triathlon, donc j'ai vraiment continué le triathlon jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis, en fait, ça a toujours été un rêve pour moi d'aller étudier aux États-Unis. Et puis, juste parce que c'est très gros là, quand tu vas étudier aux États-Unis puis que tu pratiques un sport pour l'université, c'est vraiment quelque chose qui est grandiose en termes de... juste pour les années à venir, mais aussi les installations, c'est énorme. Là, donc, à l'âge de 18 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre le triathlon de côté, puis j'ai appliqué à plusieurs universités américaines pour me joindre à leur programme de cross-country et d'athlétisme. Et puis, j'ai tombé sur un programme à San Diego que j'ai adoré. Là, j'ai vécu en fait 5 années à San Diego et puis j'ai adoré ça. J'ai couru pratiquement seulement que le 10 km. mais à la fin de ces années-là, j'ai beaucoup aimé ça faire l'athlétisme, mais moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est aussi structuré que l'athlétisme a besoin de faire en sorte que tu sois structuré. Le fait de devoir frapper toujours un pace à chaque tour de piste, c'était quelque chose que je trouvais plus redondant. Mais j'aimais toujours aussi courir, fait que je me suis lancée plus dans la course en sentier là, quand j'ai fini ma maîtrise à l'université.
La course en sentier, tu l'as passé particulièrement révélée à toi quand tu étais au Colorado, c'est ça?
Ouais, exactement. Quand j'ai fini mon université, j'ai déménagé au Colorado. Et puis là, c'est juste arrivé de façon très organique. Là. Je pense que quand j'étais au Colorado, j'habitais à Boulder, qui est vraiment la mecca là, un peu là, de la course en sentier là, au Colorado. Ben, en fait, aux États-Unis. Et puis ça s'est fait de façon naturelle. J'ai commencé à courir en sentier. J'ai commencé à rencontrer beaucoup de gens qui faisaient de la course en sentier. Je me suis joint à des groupes. J'ai fait partie d'une communauté. Puis une chose après l'autre a fait en sorte que je me suis lancée là, dans le monde de l'ultra assez rapidement.
Ça ressemblait plus, toi, justement, à ce côté un peu détaché de la contrainte et ce sentiment de liberté, de sociabilité. C'était plus aligné, finalement, avec ce que tu es?
Oui, absolument. Je trouve que la course en sentier, ce que j'adore de la course en sentier, c'est que justement, c'est que t'es pas focusé sur ton pace, t'es pas focusé sur rien, t'es vraiment focusé sur comment tu te sens, puis comment est-ce que tu attaques la montagne c'est à toi de voir ta stratégie de course, puis tu sais, c'est pas une stratégie de course qui est très linéaire, tu sais, même si t'as un plan préétabli. Il y a différentes choses qui vont survenir durant une course qui font en sorte que tu es obligé de réagir à ce qui se passe. Puis c'est ce que j'aime. Il y a beaucoup, beaucoup de variables qui font en sorte qu'une course se déroule d'une façon et non d'une autre.
Sur cette dimension compétitive qu'on sent, t'anime aussi beaucoup. Est-ce que si tu devais placer le curseur, est-ce que c'est une compétition qui est plutôt face à toi-même ou est-ce que c'est plutôt l'émulation, essayer de faire aussi, de te challenger d'être confronté, le terme est un peu excessif, mais en tout cas d'être en compétition avec d'autres. Est-ce que tu le fais plus pour toi ou est-ce que tu le fais plus pour aussi te challenger?
C'est sûr que je le fais beaucoup plus pour moi. Tu sais, même dans les courses, des fois, il y en a qui me disent souvent que j'ai tendance à partir quand même assez rapidement. Puis il y en a beaucoup qui me disent que je devrais pas faire ça ou que je devrais adapter mon style là, pour la compétition et tout ça. Mais ça vient vraiment de moi. Tu sais, quand je démarre la course, je me sens vraiment bien. Puis c'est juste le sentiment qui m'emporte. Puis tu sais, je me lance dans une course. Donc, je passe un peu moins de temps à me soucier de ce que les autres font, puis plus comment moi je me sens à travers d'une distance. Puis je gère de cette façon-là.
L'ultra-endurance, sous plein de formes, en fait, elle est très présente dans ta vie. Qu'est-ce qui explique aussi que tu sois allé vers ce type de format très éprouvant? Parce que voilà, la compétition, elle peut exister sous plein de formes. Sous les sports collectifs, sous les sports individuels, mais qui sont peut-être, voilà, le 10 000 mètres, c'est un exercice qui est encore différent, même si très délicat. Qu'est-ce qui t'appelait, toi, dans l'ultra-endurance? C'était peut-être l'introspection, la quête aussi personnelle, d'être un peu dans la douleur et le dépassement de soi aussi sur un temps long. Qu'est-ce que tu venais y chercher?
Ben, je pense que la quête personnelle vient en deuxième plan. Moi, pour moi, ce qui m'a vraiment appelée avec l'ultra, c'est j'adore le fait que ce soit autant communautaire. Et puis j'adore le fait aussi que pour compléter un ultra, tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu sais, je veux dire, si vraiment tu veux bien réussir à un ultra, tu dois avoir des gens qui t'accompagnent, tu dois avoir une équipe avec toi. Et puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, quand je suis rentrée dans le monde de l'ultra, j'avais, tu sais, le concept d'un pacer, puis le concept d'une crew, j'ai toujours trouvé ça super le fun, puis intéressant de pouvoir amener des gens de ton entourage à t'aider dans ta réussite. C'est vraiment pas un sport individuel, contrairement à beaucoup d'autres sports de course à pied. Tu sais, je pense que l'ultra, c'est vraiment le sport qui rassemble. Donc oui, pour ta progression personnelle, mais c'est aussi l'aspect communauté. Là, tu sais, quand tu fais des entraînements d'ultra, tu sais, c'est tellement pas difficile de trouver des gens pour aller faire une niaiserie une fin de semaine, là, tu sais, des sorties qui font pas d'allure. Et puis la camaraderie aussi, là, je dirais que dans le monde de l'ultra, la camaraderie, elle est assez particulière, puis c'est vraiment ce que je préfère. C'est sûr qu'il y a le concept de dépassement de soi, je peux pas passer à côté de ça non plus. Je trouve ça vraiment intéressant de toujours voir, tu sais, où est-ce qu'on peut amener notre corps ou qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser les limites. Puis moi, ce que j'adore le plus dans le monde en ultra, c'est que des fois, tu vas frapper un down, puis tu penses vraiment que t'as trouvé le fin fond du baril. Et puis, sans raison particulière, à un moment donné, tu te ressors de ce gouffre-là. Et puis, tu es capable de continuer d'avancer. Puis ça, j'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant.
Est-ce que tu es du genre à dire non si on te propose une sortie là pour demain matin? Est-ce que tu vas dire oui dans 100% des cas, quel que soit le contexte et la situation? Tu peux pas résister?
Ouais.
Toujours
ouais,
partante?
Je dirais que c'est même problématique. Là. Je pense que j'apprends avec les années, mais c'est certain que dans le passé, il y a eu des moments où j'aurais pas dû faire quelques sorties. Et peut-être que ça m'aurait évité quelques blessures. Mais tu sais, dans mon monde idéal, je serais toujours en mesure de dire oui à des sorties, oui à des défis, oui à des à des idées un peu rigolotes là, qui arrivent là, sur mon chemin.
Je digresse un peu, mais cette approche très instinctive et très spontanée, qu'on sent presque artistique, j'ai envie de dire, dans ta pratique de la course à pied, est-ce que c'est quelque chose qui se traduit aussi dans ton quotidien et dans ta façon d'être dans la vie de manière générale, ou c'est vraiment juste très spécifique à ta pratique?
Non, je suis vraiment quelqu'un comme ça. Je suis capable de suivre des plans, évidemment, et je suis capable de m'adapter avec les gens, mais moi, personnellement, je vis vraiment pas ma vie de façon carrée, là. Moi, c'est vraiment... je vois comment la vie arrive, puis je réagis en conséquence. Puis j'adore ça. T'sais, chaque matin, je sais jamais vraiment trop qu'est-ce que je fais, puis comment est-ce que je vais procéder. Et puis c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et puis que je pense que c'est quelque chose aussi qui m'aide en ultra, parce que tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va t'attendre. Puis c'est justement d'être capable de réagir et de ne pas stresser par rapport à différentes situations. Fait que oui, c'est dans la course à pied, mais c'est vraiment dans ma vie, là. T'sais, si quelqu'un m'invite à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la course à pied, je vais tout aussi être... Je vais être aussi partante là, pour ces plans-là aussi.
Est-ce que tu peux ressentir la même émulation et la même fougue à pratiquer des sorties un peu libres ou à essayer de t'attaquer à des off ou des FKT? Ou est-ce que vraiment, le fait d'avoir un dossard sur toi, ça sublime forcément le rendez-vous?
Ben, je pense que je suis capable de me lancer sur des FKT aussi. Mais, tu sais, oui, la vitesse, j'adore ça, mais j'aime aussi le principe de pouvoir aller avec des gens puis juste faire une sortie sans trop nous stresser de combien de temps ça nous prend ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que c'est des plans prédéterminés, tu sais, d'aller chercher un FKT, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais je te dirais que de façon générale, ce que j'aime le plus, c'est l'idée qu'on est tous en train de s'entraîner ensemble pour faire une sortie X. J'aime mieux l'idée de se lancer un défi qui est très long ou très difficile, ardu, et puis qu'on est comme 5 personnes puis qu'on doit s'assurer que les 5 personnes en arrivent au bout. Je pense que ça m'anime plus que, tu sais, aller chercher un FKT toutes les fins de semaine. C'est vraiment pas mon style, bien que quand je mets un dossard, c'est sûr que l'aspect compétitif rentre en ligne de compte.
J'ai quand même cru comprendre que dans le Colorado, tu avais fait quelques hold-up sur Strava là, quand tu avais décidé un peu de mettre de vitesse, que tu avais quand même raflé pas mal de segments.
Ouais, exactement.
Mais tu t'en laisses pas compter avec la vitesse malgré tout. Est-ce que tu peux nous parler de, selon toi, ce que sont les ingrédients indispensables pour qu'une course soit réussie? Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'elle ait pour que tu sois satisfaite d'y être allée et qu'elle t'ait apporté tout ce que tu étais venue y chercher? Il faut quoi?
Moi, je pense que ce qui est primordial, c'est plus avant la course. Donc, la préparation, c'est sûr que pour une course soit bien réussie, il faut que tu te sois bien préparé pour la course. Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est que tu en aies envie. Donc, le goût de faire la course. Puis, tu sais, quand on parle souvent de « détermine ton why », pour moi, on associe ça beaucoup aussi à tes intentions. T'sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as le goût de t'aligner sur la ligne de départ, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas en arriver à l'arrivée. Donc, je pense que c'est vraiment, si ton intention est claire et puis tes raisons sont les bonnes, je pense qu'il n'y a aucune raison pourquoi tu ne donnes pas le maximum de toi-même. Parce que c'est ça, moi je trouve dans un ultra, c'est que tu vas trouver des bas, tu vas vraiment avoir des moments où ils sont bas, puis il va falloir que tu t'en ressortes. Et puis si tu n'as pas préétabli les raisons pour lesquelles tu te mets dans cet état-là, tu t'en ressortiras pas parce que tu n'en auras pas tant envie. Donc moi, c'est ce qui fait en sorte que je détermine qu'une course est réussie. Puis si tu t'es bien préparé puis que tu as bien fait les choses avant la course, tu vas bien réussir ta course. Il n'y a pas de raison pourquoi tu ne le ferais pas.
Est-ce que tu pourrais isoler un moment de course que tu aimes particulièrement? Un lever de soleil, un certain type de passage, des terrains roulants, est-ce qu'il y a un moment, une arrivée? Les ravitaux avec la famille, c'est quoi le plus beau moment pour toi? C'est difficile parce que c'est un ensemble, hein, bien sûr.
C'est vraiment difficile. Je dirais probablement les ravitaillements. j'aime vraiment ça, les ravitaillements, quand tu arrives, puis... ça fait peut-être 15-20 km que tu cours toute seule dans ta bulle, tu n'as pas parlé à personne. Tu as accumulé toute cette énergie que tu veux sortir, puis quand tu arrives au ravitaillement, tu es capable de faire le point avec les gens qui sont là pour toi puis qui te sont chers. T'sais, moi, je trouve ça super important de te faire ravitailler par des gens qui sont proches de toi pour que tu puisses le savourer avec eux. Donc, c'est un moment que j'adore. Mais sinon, de façon générale, dans toutes les courses, là, moi, les portions que j'adore le plus, ce sont les longues, longues descentes là, où tu peux courir pendant vraiment longtemps à une vitesse assez soutenue. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis j'adore ça quand on est plusieurs personnes à bien rouler dans des longues descentes comme ça. Dans toutes les courses, je remarque que c'est là que j'ai le plus de plaisir puis que Je suis vraiment contente d'être là.
Les années 2016-2017 notamment, elles ont été remarquablement fastes et riches en excellents résultats pour toi. Je vais citer quelques victoires et trophées. Donc les 50 miles de Fort Collins où tu as devancé la précédente, gagnante, j'allais dire vainqueuse, mais ça n'existe pas, ni vaincrice. Donc ce sera la gagnante de Western State 2016, la gagnante de la CCC. Tu as gagné les 50 miles de Beyond the Rock, 55 km du Red Hot Moab en février aussi 2017. Une course avec Mathieu Blanchard que vous avez fait en binôme. La Transalpine Run, tu as fait 5e du marathon du Mont Blanc. Bref, beaucoup d'excellents résultats. Est-ce que c'est à ce moment-là de ton parcours que tu as commencé à identifier, à prendre conscience du potentiel que tu pouvais avoir? Est-ce que c'est déjà des choses dont tu étais convaincu un peu plus tôt, ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as même pas encore aujourd'hui accepté? Est-ce que tu as le souvenir à un moment de te dire « Ok, j'ai un potentiel à exploiter, j'ai vraiment envie de creuser, de densifier les efforts pour essayer d'aller le plus loin possible? »
J'aimerais ça revenir sur la question que tu m'as demandé plus tôt, tu sais, quand je fais une course, est-ce que je me compte, est-ce que je la fais pour moi-même ou pour d'autres? Puis je pense que tu sais, quand t'es nouvelle dans le sport, puis justement, l'année 2017, j'étais assez nouvelle, tu sais, puis je me suis alignée, tu sais, je me rappellerai toujours à Crowdwalk, je me suis alignée contre des gens, tu sais, Casey, Claire, Anna May, c'était trois personnes qui avaient gagné des grosses courses dans le monde de l'ultra, puis qui étaient très reconnues. Et puis moi, quand je me suis alignée sur la ligne de départ, c'est sûr que j'en étais consciente, que, tu sais, je m'alignais contre des gens qui avaient un très bon résumé de course. Mais c'est très important pour moi de juste faire ma course. Et puis, c'est vraiment ce qui est arrivé. Tu sais, je suis arrivée, j'ai fait ma course, je ne me suis pas vraiment préoccupée de ce que les autres faisaient. Et puis, ça a fait en sorte que j'ai l'idée, tu sais, pratiquement toute la course. Et puis, je pense que c'est ce qui est le plus important pour les gens, c'est de savoir que ce n'est pas parce que d'autres personnes ont fait d'autres choses dans le passé que toi, tu ne peux pas faire quelque chose d'impressionnant dans le futur. Fait que c'est sûr que ce genre de performance-là, tu sais, est venu solidifier un peu la confiance en moi. Mais moi, ce que je voudrais dire à les gens qui nous écoutent, c'est surtout que ça prend juste une bonne performance pour que tu fasses partie des meilleurs. Puis je pense que c'est ce que j'aimerais dire à ce sujet-là. C'est sûr que ça a été surprenant pour moi un peu, mais d'un autre côté, tant et aussi longtemps que je faisais ma course, tu sais, au meilleur de mes habiletés, j'allais pas être déçue. Donc, tu sais, une première place aux courses que tu as mentionnées, ça se prend bien. Mais c'est quelque chose que tu sais, si tu suis tes propres habiletés, tu devrais pas être surprise de ça.
Tu n'as pas d'entraîneur autour de toi? Est-ce que c'est un choix délibéré? J'imagine que oui. Qu'est-ce qui guide ce choix? C'est parce que tu considères que tu es suffisamment autonome et que tu te connais suffisamment bien pour être en capacité de t'entraîner? Est-ce que c'est pour tenir à distance une espèce de forme quelconque de pression extérieure? Qu'est-ce qui peut expliquer ce choix-là?
Ouais, ben je te dirais que le choix premier, c'est que moi, je fais l'ultra principalement pour le plaisir, puis je fais les ultras principalement pour le plaisir, puis c'est ce que je veux garder. Je veux être capable de dire oui aux plans qui me sont lancés. Tu sais, je veux être capable, si je reçois un texte un soir, de dire OK, oui, je suis là demain matin, pas de problème, même si c'est pas la meilleure chose spécifique pour mon training. Je pense que dans un certain sens, c'est ce qui fait en sorte que quand je suis en train de courir un ultra puis que je trouve ça difficile, ben c'est très facile pour moi de juste me retourner de bord puis dire non, mais je suis ici pour le plaisir, puis je continue à pousser puis advienne que pourra. Donc ça, c'est certain que c'est la première chose. Mais en deuxième lieu, c'est sûr que ça faisait, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'entraînement structuré là, depuis que j'ai comme 8-9 ans. Donc je pense que la dynamique est différente que quelqu'un qui se rentre, qui commence en ultra puis qu'il n'a pas suivi une certaine planification d'entraînement. Donc, c'est sûr que j'ai le bagage sportif en tant que j'accumule avec moi, à savoir comment bâtir un plan d'entraînement, qu'est-ce qu'il faut suivre. Aussi, j'ai le bagage de mes expériences personnelles. J'ai eu beaucoup de blessures là, en 2017 jusqu'en 2022. Donc, je suis la meilleure personne pour savoir où est ma limite. Puis, je commence à savoir quand est-ce que je dépasse la borne puis qu'il faut que je fasse certaines choses différemment. C'est sûr aussi que je suis entraîneur avec le coaching du coureur, donc j'ai beaucoup d'outils à ma disposition là, pour jouer avec ça. Puis, j'aime aussi m'entourer de gens qui ne sont pas nécessairement mes entraîneurs, mais avec qui je peux discuter de différentes choses que je fais dans mon entraînement. Puis, c'est plus une discussion générale qu'un coach qui me donne quelque chose à faire puis que je dois faire par obligation, que c'est sur mon plan d'entraînement.
Au regard de toutes tes performances et ton parcours sportif, j'en ai pas cité tous les contours, mais voilà, il est remarquable. Donc, tes compétences sont évidemment avérées. Est-ce que tu vois des domaines dans lesquels tu as une certaine marge de progression? Et si oui, est-ce que tu décides de les travailler ou est-ce que tu décides plutôt d'asseoir tes forces et de travailler sur les choses que tu sais déjà bien faire? Comment est-ce que tu raisonnes par rapport à ça?
Oui, c'est sûr que j'essaie toujours de travailler mes faiblesses. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps, mes faiblesses sont changeantes. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'avant 2017, je me suis cassé la jambe en 2018. Et puis ça a vraiment tout changé. Ça a changé un peu mes forces et mes faiblesses. Je me suis cassé la jambe, fracture spirale du tibia péroné. Et puis, depuis ce moment-là, les descentes, c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que j'ai tout plein de faiblesses qui en sont ressorties. J'ai des faiblesses aux chevilles, j'ai des faiblesses à la jambe que j'ai cassées. Tandis qu'avant 2018, tu sais, je t'aurais dit que ma plus grande faiblesse, c'était les montées et puis ma plus grande force, c'était les descentes. Mais maintenant, ça s'est inversé. En fait, je dirais pas que ça s'est inversé, mais ça s'est ça s'est réétabli. Donc, je te dirais que j'ai pas vraiment de force autant montée que les descentes, mais à cause de ça, je dois tout le temps tout travailler, mais c'est surtout les petites faiblesses que je dois travailler au niveau de ma mobilité. Là, je te dirais que depuis ma blessure, là, j'ai des faiblesses flagrantes que je dois travailler en continu.
On va revenir sur cette blessure qui a été particulièrement marquante de ton parcours. Pour en revenir sur une facette sportive et personnelle autre qu'on n'a pas encore dévoilée dans nos échanges, tu es aussi triathlète de haut niveau et guide pour une paratriathlète aveugle canadienne, Jessica Tuomela. Est-ce que tu peux nous expliquer le sens que tu donnes à cette démarche qui, j'imagine, va bien au-delà d'une seule démarche sportive?
Oui, absolument. Écoute, ça m'est arrivé un peu, là. En fait, cette expérience-là m'est arrivée un peu là, out of the blue, comme on dit en anglais. C'est quelque chose qui m'a été proposé au moment, justement, où j'étais blessée. Et puis, je trouvais que c'était une excellente opportunité pour moi, en quelque sorte, de redonner au prochain, mais aussi... Fait qu'il y avait une quête personnelle, mais aussi ça me permettait de garder un état physique quand même assez... en fait, ça me permettait de garder la forme sans me blesser davantage parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout capable de courir. Là. Je me remettais à peine de ma jambe. Et puis, ça a pris un tout autre sens, en fait. T'sais, faire partie de l'équipe et guider une triathlète aveugle, c'est sûr que ça m'a fait vivre des expériences inoubliables, mais ça m'a aussi ouvert au... différents challenges de la vie que différentes personnes peuvent avoir. Et puis, je trouve ça super important. Je trouve ça important que dans la vie, tu sois pas juste entouré de gens qui vivent exactement comme toi puis qui ont les mêmes challenges et tout ça. Je trouve ça vraiment pertinent de s'entourer de gens qui, justement, élargissent un peu tes horizons par rapport à ce que la vie peut être pour eux. Parce que j'ai voyagé, c'est ça, avec l'équipe paralympique là, pendant 2 ans. On a fait en quelque sorte le tour du monde. Et puis, c'était vraiment intéressant de voir les challenges que différentes personnes pouvaient avoir. Et puis, travailler avec Jess, ça a beaucoup, beaucoup travaillé ma communication. On était 2 personnes avec des personnalités bien différentes, mais qui étaient attachées l'une à l'autre. Donc, la communication aussi, juste en termes de comment communiquer avec quelqu'un qui est autant différent de toi, mais aussi l'importance de communiquer avec quelqu'un qui est aveugle et donner tous les petites instructions nécessaires là, à son succès.
Dans les raisons qui t'ont amené à traverser le monde avec elle, il y a notamment un passage par Tokyo et les JO de 2020 qui ont été décalés à 2021. Qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience sur laquelle... Je le dis parce que je ne sais pas si tu le diras spontanément, vous avez terminé 5e, ce qui est une très belle performance. Qu'est-ce que toi, tu as gardé au-delà de ce résultat? Qu'est-ce que tu as gardé particulièrement de cette aventure?
Moi, c'est encore une fois, pour moi, c'était une grosse aventure humaine. C'était assez exceptionnel de voir et faire partie de l'équipe paralympique canadienne. Donc, évidemment, on côtoyait les autres sports, on côtoyait les autres. Donc, c'est sûr que moi, je suis pas juste attachée avec Jessica en tant que guide. Je fais partie de l'équipe paralympique et encore une fois, tu vois des gens à travers le monde faire des sports. C'est assez impressionnant là, de voir ce que les gens peuvent faire là, avec leur statut qui fait en sorte qu'ils sont des paralympiens. Moi, j'ai trouvé ça, là, j'ai trouvé ça vraiment eye-opening. Là. Ça a été vraiment une expérience hors du commun. Vivre dans le village paralympique durant les Paralympiques, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Puis faire partie de l'équipe paralympique canadienne, c'était remarquable.
Merci beaucoup pour ces éléments de présentation, Marianne. On va passer désormais à notre rubrique de la basket chinoise. C'est un portrait chinois, version sportive, que j'ai un peu remodelé tout récemment. Donc, tu vas un peu essuyer les plâtres avec cette nouvelle version. Tu es la deuxième. La première question de cette basket chinoise, est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment qui a changé ta vie pour toujours? Tu l'as peut-être déjà évoqué dans nos échanges préliminaires. Est-ce qu'il y a un moment qui a été particulièrement un cap de ta vie majeur?
Oui, c'est un...
Perso c'est un ou qui... sportif ou autre?
Oui, c'est un moment qui m'est arrivé quand j'étais assez jeune, en fait. Quand j'étais assez jeune, c'est ça, j'étais nageuse et puis j'étais une nageuse correcte. J'étais pas tant... Je serais pas allée aux Olympiques en natation, disons. Et puis, quand j'ai appliqué dans un programme sport-études, à l'âge de... Je devais avoir 10-11 ans, je me rappelle plus trop. J'ai été refusée dans ce programme-là. Et puis, ça m'a vraiment frappée comme quoi... Ça m'a frappée comme un gros échec. Et puis, les raisons de l'entraîneur, c'était que je n'étais pas assez sérieuse dans le sport. Et puis, je trouve ça flagrant parce que... À ce jour, je pense qu'à mon âge, outre les gens de l'ultra-trail que je côtoie, je suis probablement celle qui prend le sport, tu sais, pour lequel, tu sais, dans mon entourage, pour les gens qui ne courent pas, c'est sûr que le sport a une énorme partie de ma vie. Et puis, nous, on s'est, donc, ma famille et moi, on a accepté le refus, on a continué de faire notre vie. Et puis, cet été-là, en fait, j'ai fait un triathlon et puis, c'est avéré que j'ai gagné le triathlon. Et puis, suite à cette victoire, on m'a laissé rentrer dans le programme. Donc, ça n'a pas eu d'impact, mais pour moi, ça a beaucoup résonné parce que je me dis que les gens... Tu sais, des fois, il va arriver un moment où tu vas te faire refuser ou il va t'arriver quelque chose de négatif quand au final, il n'y a aucune raison pourquoi ça t'arrive puis que tu peux pousser à travers puis il n'y a aucun problème. Tu sais, le rejet par une personne ne veut pas nécessairement dire que tu ne vas pas te faire accepter par une autre ou le rejet d'une situation, on va pas dire que... Donc, pour moi, je me garde toujours cette situation-là en tête quand je me dis, tu sais, si je vis un échec, c'est pas une raison que le prochain événement peut pas être un succès. Donc, c'est sûr que je suis ravie d'avoir vécu cette expérience-là à un jeune âge, puis je pense que ça m'a vraiment mis dans une position de juste dire, tu sais, on continue d'essayer jusqu'à temps que ça fonctionne.
Deuxième question de cette basket chinoise, est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté? Et par accomplissement, j'entends pas nécessairement... Un succès ou une victoire, ça peut être une chose du quotidien ou voilà, un moment de partage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement fier dans des grandes ou petites actions?
Oui, ben c'est sûr que moi, je vais aller dans un accomplissement plus sportif là, qui m'amène beaucoup de fierté parce que ça a demandé beaucoup d'efforts à compléter. Donc, compléter la Transalpine avec Mathieu Blanchard en 2017, là, je pense que ça m'a vraiment montré à quel point on est capable de pousser son corps au maximum quand on pense qu'on n'a plus du tout d'énergie.
C'est 267 km, je précise, pour nos auditeurs.
Oui, c'était 267 km dans les Alpes avec Mathieu. Puis, à partir de, tu sais, c'était sur 6 jours, je crois, 6 jours. Et puis, à partir de la 4e journée, là, j'étais dans une douleur extrême que je m'attendais vraiment pas. Et puis, ce qui arrivait, c'est que je terminais la journée, j'allais me coucher le reste de la journée. Et puis, je pensais que physiquement, je n'allais pas être capable de me lever pour aller au souper. Tu sais, je me sentais malade, j'étais vraiment là, au bout de mes forces. Et puis, il a fallu que je me lève encore 3 journées après la journée où j'ai vraiment atteint, tu sais, où je pensais le maximum de mes capacités pour aller courir un autre marathon dans les Alpes à une vitesse quand même assez extrême parce qu'on a remporté toutes les étapes de cette course-là. Donc, c'est sûr que moi, encore une fois, c'est aussi un eye-opening, à savoir, quand tu penses que tu as atteint le fond du baril, tu en as toujours plus. Ça a formé ma mentalité aussi pour les ultras à venir et puis juste le concept que tu peux toujours aller plus loin.
Dernière question, c'est le basket chinoise. En fait, c'est pas vraiment la dernière, tu verras, il y a une petite subtilité. Est-ce que tu peux nous parler des 3 choses que tu emporterais avec toi sur une île déserte?
Oui. C'est une bonne question et je vais peut-être tricher un peu, mais je vais répondre que c'est sûr que pour survivre sur l'île déserte, là, je m'assurerais d'amener là, 2 choses qui me permettent de survivre justement. Donc, un élément pour partir un feu et un élément pour probablement attraper des poissons, donc soit une canne à pêche ou un filet, quelque chose comme ça. Et puis, la 3e chose que j'amènerais, ce serait probablement une personne ou deux personnes là, qui me sont chères. je pense que ce serait la chose là, qui ferait en sorte qu'être pris sur une île déserte, ça ferait absolument rien tant et aussi longtemps qu'on est capable de survivre sur l'île déserte et puis qu'on a des personnes avec soi. Je pense que ça me ferait mon bonheur.
J'ai une quatrième question de cette basket chinoise. C'est très inhabituel, mais c'est Mathieu Blanchard, qui me l'a susurré à l'oreille. Je demande habituellement dans la basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il? Est-ce que tu pourrais me répondre?
Oui, je réponds à la question parce que Mathieu me surnomme la dinde.
Oui.
Depuis la Transalpine, justement.
Il m'a jamais dit pourquoi, il ne m'a pas expliqué.
Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que dans les premières journées, il y a une expression en anglais que tu dis « we dumped those turkeys » ou tu dis quelque chose comme… Puis en français, je le traduis souvent comme « il m'a fait courir comme une dinde ». Et puis, après la première journée de la course, on avait eu une super belle performance à la Transalpine la première journée. On avait remporté l'étape. Et puis, j'avais appelé mon frère et ma belle-sœur et puis je leur avais dit que Mathieu m'avait fait courir comme une dinde. Et puis Mathieu avait trouvé ça très drôle. Puis depuis ce moment-là, tous les jours, il faisait juste me dire de courir comme une dinde. Et puis après ça, ben le surnom est resté. Puis ce que je trouve très comique, parce qu'une dinde, ça court vraiment pas particulièrement rapidement. Puis c'est vraiment pas très... c'est
vraiment gracieux. Pas très
beau. Mais j'adore ça. T'sais, je trouve que c'est justement le côté drôle qu'il faut qu'on accepte de soi-même. Puis depuis ça, là, tout le monde m'appelle juste la dinde. Puis c'est drôle.
Merci Marianne. Le moment est venu de parler de ta course épique, donc l'UTHC, autrement appelée Ultra Trail Arikana. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course. L'UTHC plante son décor au Québec, au cœur d'une réserve mondiale de la biosphère qui abrite une faune et une flore exceptionnelles. Résultat de l'impact d'une météorite de 15 milliards de tonnes il y a 360 millions d'années, le cratère de Charlevoix qui accueille la course exhibe un relief bien particulier. Du format 1 km pour les enfants, en passant notamment par des distances de 28, 42, 65, jusqu'au format de 125 km qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, l'UTHC offre un très large panel de courses au cœur de la forêt boréale québécoise. Le 125 km offre ainsi aux coureurs la possibilité d'évoluer au contact de différents sommets, 4 je crois, des lacs, des rivières, des forêts, la majeure partie du temps sur des monotraces. Bien que le début de l'épreuve soit technique et cassant, de nombreuses sections demeurent relativement roulantes, ce qui en fait un tracé certes éprouvant, où il est cependant possible de courir une bonne partie du temps, pour ne pas dire tout le temps. Donc là, je dresse un portrait qui est presque paradisiaque du parcours, mais ne vous y trompez pas, il se veut être redoutablement exigeant. En témoigne le fait que seul un peu plus de la moitié des participants ont passé la ligne d'arrivée de l'épreuve depuis sa création en 2016. Donc voilà, maintenant tout le monde est à peu près incollable sur l'UTHC et puis tu vas compléter évidemment avec ta course épique que tu vas partager avec nous. Mais avant ça, j'ai une partie de l'épisode qui s'appelle la question qui pique de course épique. Donc c'est une question gentiment piège, très très gentiment piège que je pose à mes invités. Je vais te proposer aujourd'hui là aussi un nouveau format inédit de Timeline. Je ne sais pas si tu connais ce jeu, c'est un jeu qui marche bien en France. L'idée, c'est de. En fait, c'est un jeu de défaut, c'est un jeu de cartes où il faut placer des cartes par ordre chronologique. Donc, dès que tu pioches une nouvelle carte, tu dois la placer à droite ou à gauche d'une carte qui est posée devant toi selon que tu penses que ça s'est passé avant ou après. Donc, c'est okay. Plein de faits historiques ou des inventions, ça peut être plein de choses. Donc, voilà, donc, je vais faire cet exercice-là en te citant 4 événements qu'il va falloir placer par ordre chronologique. Donc, le premier d'entre eux, c'est justement la date de l'impact de la météorite dont je t'ai parlé tout à l'heure et qui a formé le cratère de Charlevoix il y a 360 millions d'années. Donc, ça, c'est il y a un petit moment. La deuxième date, c'est l'invention des plaques carbone pour les chaussures de running. Est-ce que c'est avant ou après ? Pas évident comme question. Ensuite, l'extinction des dinosaures. Et enfin, l'apparition des coyotes dans la région de Charlevoix. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire du plus ancien au plus récent, chacun dans l'ordre, entre la météorite qui a créé ce cratère à Charlevoix, l'invention des plaques carbone pour les chaussures de running, l'extinction des dinosaures et l'apparition des coyotes dans la région de Charlevoix ?
Ok.
Fais-toi confiance, le plus loin. Le plus lointain.
Je vais mettre la météorite en premier.
Ouais.
L'extinction des dinosaures en deuxième.
C'est bon. Les coyotes ou la plaque carbone?
Les coyotes et la plaque carbone.
Bravo! À ce que je vois, tu es la reine des chronos, mais aussi tu es la reine de la chronologie. Félicitations.
Ben,
pas
merci.
Évident, ouais, franchement. Bon, on le garde ce format timeline, c'est rigolo?
Ouais, c'est parfait, j'aime ça.
Ok, cool. Bravo en tout cas, Marianne. Allez, on va parler maintenant de ta course épique, on se lance sur tes pas et sur ce Ultra Trail Arikana. Avant ça, je remonte quand même un petit peu le temps à nouveau. Tu l'as évoqué tout à l'heure, les blessures ont fait partie de ta vie à plusieurs reprises. Il y en a une qui a été particulièrement marquante, qui a été la jambe que tu t'es cassée en fait, avec une double fracture spirale du tibia péroné qui t'a tenu longuement et longtemps éloigné des sentiers.
Ouais.
Ces blessures, elles sont d'origine accidentelle ou est-ce que c'est lié à une éventuelle surcharge, des fragilités qui sont liées à ta physiologie? Est-ce qu'une première blessure en a appelé forcément d'autres en guise de compensation? Comment est-ce que tout ça s'est enchaîné à tes dépens?
L'élément déclencheur, ce fut vraiment la fracture spirale. Je pense que par la suite, il y a beaucoup, beaucoup de faiblesses qui se sont pointées, comme j'ai mentionné. C'est dur à dire si la fracture spirale... c'est assez clair pour moi que la fracture spirale est arrivée par malchance, mais la malchance aurait pu être causée par différentes choses que j'ai faites qui auraient pu être évitées. Donc, c'est sûr que avant la journée que je me suis cassé la jambe, je courais un 50 km. Et puis, la semaine avant, elle avait été super chargée en entraînement. J'étais déjà fatiguée quand je suis partie. Je suis partie, puis en 10 minutes, ma cheville, elle n'arrêtait pas de tourner parce que j'avais les jambes fatiguées. Je portais des souliers trop petits. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ma jambe, elle a tourné, elle est restée prise, puis ça a fait casser ma jambe, l'impact. Donc, c'est sûr que ça, c'est de la malchance. Mais il y a beaucoup de décisions qui ont fait en sorte que probablement que ça aurait pu être évité. Et puis, c'est une expérience que j'utilise pour essayer de prendre les meilleures décisions dans le futur. Parce qu'être spontané puis dire oui à différentes choses, c'est très positif, mais ça peut être aussi négatif. Puis j'utilise ma blessure à la jambe pour me rappeler que c'est important de prendre les bonnes décisions au bon moment également.
Tu as été quoi comme type de personne face à cette blessure qui était une découverte pour toi? Comment est-ce que tu as géré psychologiquement tout ça? Est-ce que ça a été une épreuve vraiment éprouvante? Je sais qu'elle a été plus longue que ce que tu imaginais. En tout cas, tu pensais être vite sur pied à nouveau. Ce qui n'a pas vraiment été le cas. Donc ça, j'imagine que ça a été une surprise vraiment très défavorable. Mais de manière générale, est-ce que tu t'es une battante et puis tu te projettes sur le « ça ira mieux plus tard » ou est-ce qu'il y a quand même un temps d'acceptation qui n'est pas simple pour toi à vivre?
Mais il y a eu un temps d'acceptation, mais je te dirais que j'essaie toujours de vivre le temps d'acceptation le plus rapidement possible tout en respectant l'émotion que tu vis. C'est sûr que, ce qui arrivait, c'est que juste avant, c'est arrivé peut-être 2 semaines avant l'UTHC 125 que j'étais supposée courir en 2018. C'est d'ailleurs pourquoi l'UTHC 125 a une aussi grosse importance pour moi parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais aller compléter. Mais j'avais vraiment un gros été devant moi là, après ça. T'sais, je m'en allais en Inde faire une course. Fait que c'est sûr que accepter tout ça, ça a été très difficile parce que ça a donné une tournure à ma vie qui était complètement différente. Par contre, dès que j'ai accepté ma blessure, j'étais capable de vraiment rester positive. Et puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que je m'en suis sortie là, par la fin. Là. Et puis, j'ai focusé beaucoup de mon attention sur différentes choses. Donc, c'est sûr qu'une fois que la blessure est arrivée, puis j'ai compris que j'allais être en béquille pendant 2 mois. Le monde de la course à pied devait être oublié pendant au moins 6 mois. J'ai focusé mon attention ailleurs, puis c'est là que je trouve qu'avoir une certaine balance dans ta vie, un certain équilibre, c'est super important. Donc, j'ai focusé beaucoup sur le travail. J'ai focusé beaucoup sur mes relations, la famille, les amis, des choses comme ça. Et puis, par le fait même, par la suite est arrivée mon aventure avec Jessica là, en tant que guide paralympique. Puis je pense qu'à la fin du compte, je suis reconnaissante que j'ai pu enrober ma vie de autre chose que juste la course à pied. Parce que c'est certain que si je ne m'étais pas cassé la jambe, probablement que j'aurais été vraiment seulement dans la course à pied ou mentalement seulement dans la course à pied. Et puis, ça aurait changé là, un peu la trajectoire là, des dernières années parce que ça m'a quand même pris 4 ans là, revenir pour faire la course que j'avais planifié faire. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de penser là, que ça m'a pris autant de temps.
J'ai entendu quelques échanges que tu avais eus avec quelques confrères, notamment cette idée que tu avais dû reprendre quasiment à zéro, comme si tu n'avais jamais fait de course à pied de ta vie.
Ouais.
Est-ce que pour toi, c'était une victoire, bien plus qu'autre chose, c'est-à-dire que c'était le chemin de la reconquête et tu le voyais comme une chance et tu as savouré ces 5 premiers kilomètres qui ont été hyper difficiles à faire, toi qui cavalais sur des ultras précédemment? Est-ce que c'était pour toi une victoire ou est-ce que ça a été aussi, est-ce que ça a pu d'une certaine façon être délicat à accepter?
C'est sûr que ça a apparu comme une victoire dans le moment. Les simples premiers pas de course, je pense qu'ils étaient victorieux pour moi parce que j'ai attendu tellement longtemps pour les faire. Je pense aussi que ça a ouvert ma perspective à savoir, tu sais, on doit travailler pour. La course à pied, c'est pas juste donné à toi. T'sais, si tu veux faire un ultra, faut que tu y travailles. Et puis, c'est vraiment ce que ça m'a ouvert. Là. Le premier 10 km que j'ai couru après m'être cassé la jambe puis de pas avoir pu courir, je peux pas te dire à quel point j'ai été raquée au niveau des hanches. Là. Puis, maintenant, je trouve ça drôle, l'idée de penser que ça m'a fait ça. Mais ça me montre aussi que ton corps est capable de s'adapter puis que c'est toi qui le prépare. Donc, je pense que ça a vraiment ouvert mes horizons par rapport à ça aussi.
Est-ce que ça t'arrive parfois de faire le scénario de ce qui aurait pu être ta trajectoire sans cette blessure? Est-ce que tu imagines ça, même si on sait que ce n'est pas forcément très constructif et que ça ne change pas grand-chose, si ce n'est créer de la frustration? Est-ce que malgré tout, c'est des pensées qui te sont venues?
Absolument, c'est sûr que ça arrive contre mon gré. J'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et puis quand ça m'arrive, je me répète juste que... En fait, j'essaie juste de voir le côté positif parce que le côté négatif, ça ne m'amènera rien. Donc, je pense que ma blessure m'a développé beaucoup de mentalement. Ça m'a travaillé beaucoup pour rester positive puis réagir aux problèmes négatifs qui t'arrivent. Donc, si jamais je tombe dans ce scénario-là où je me dis, j'aurais pu faire ces courses-là moi aussi, j'aurais pu faire ci il y a 4 ans, c'est juste qu'il faut s'adapter et puis il faut savoir réagir de façon positive. Donc, c'est sûr que ça m'arrive, mais j'essaie de faire en sorte que ça ne m'arrive pas.
Tu aurais dû donc participer à l'UTHC en 2018. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui initialement t'a guidé vers cette course-là? Pourquoi ton choix s'est porté vers cette course? C'était un incontournable? Qu'est-ce qui te donnait envie sur cette course?
Ouais, ben c'est sûr que c'est incontournable pour moi. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, moi, j'étais supposée guider Jessica jusqu'en 2020 à Tokyo. Mais Tokyo 2020 est devenu Tokyo 2021. Donc, ça a vraiment fait en sorte aussi que mon retour en ultra, encore une fois, a été décalé pas mal. Et puis, les Tokyo se sont terminés. Puis, 2 semaines plus tard, il y avait l'UTHC 125. Donc, c'est sûr que, quand je commençais à penser à l'après-paralympique, pour moi, je voulais retourner en ultra le plus rapidement possible, même si ma préparation n'était pas optimale, parce que je m'entraînais beaucoup plus en triathlon qu'en course en sentier à ce moment-là. Mais c'est certain, quand j'ai voulu me relancer sur le 125, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu sais, Marianne, pourquoi est-ce que tu fais pas le 65 ou le 80, qui aurait été le choix le plus raisonnable, parce que j'étais vraiment pas aussi bien préparée pour un 125 que j'aurais dû l'être. Mais pour moi, à ce moment-là, je voulais juste refaire le 125 que j'étais supposée faire il y a 4 ans, puis je me disais aussi, c'est la première fois en X nombre d'années que je suis capable de courir puis que je serais capable de compléter le 125. Fait que si la performance n'y est pas, ça me dérange pas autant que juste le fait de pouvoir le compléter. Fait que c'est ça qui a guidé un peu ma décision à faire le 125 là, en septembre passé.
Ta préparation, elle a été un peu atypique, tu viens de nous l'expliquer. Est-ce que c'est de manière générale, dans des cycles en tout cas plus habituels, mais peut-être que ça fonctionne aussi avec les préparations pour du triathlon? Est-ce que c'est une période que tu aimes bien? Est-ce que la prépa, c'est quelque chose que tu ne rechignes pas à faire en aucune circonstance, quelle que soit la saison, ton humeur, la difficulté, le type de séance? Est-ce que tu t'y prêtes facilement? Est-ce qu'il y a des sacrifices qui te paraissent plus difficiles que d'autres à faire?
Ah non, moi j'adore la préparation. Je pense que la préparation, je préfère ça à les courses. Tu sais, les longues sorties, moi, c'est quelque chose que j'adore et que je pourrais toujours faire là, les fins de semaine. Là, mes fins de semaine sont habituellement dédiées là, à des longues sorties en nature, puis c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, absolument pas. Là. En fait, la préparation, c'est le plus important pour moi. Donc, c'est sûr que le triathlon a juste fait en sorte que je pouvais pas courir autant du tout, et puis j'avais pas du tout accès à la nature. Là. C'est sûr que ma plus longue course, elle a été faite dans le village paralympique, de fond en comble fait 1-2
km. Avec un masque? Là. Non, t'avais le droit de pas porter de masque?
C'était très... il fallait porter
très
le masque.
Très contraint de ce qu'on a pu voir.
C'était incroyablement difficile. Là. Il faisait comme 35 degrés à Tokyo à ce moment-là. Donc, 35-40 là, avec facteur humidex là, assez élevé. Donc, c'était assez difficile.
Le principal objectif sur cette UTHC, c'est prendre du plaisir au-delà de la dimension symbolique de renouer avec la course à cet endroit-là et là où tu aurais dû être 4 ans plus tôt. C'est la seule chose qui compte, c'est que tu prennes du plaisir et que tu ailles au bout, quelle que soit la position.
Absolument. C'était ce que je voulais. C'était mon intention. Je te cacherai pas non plus que j'avais le désir de pouvoir performer, mais la pression n'y était pas dans le sens que c'était pas l'objectif premier.
Qu'est-ce que t'inspire le parcours qu'on peut qualifier de technique, comme je l'expliquais tout à l'heure? Est-ce que sur le papier, c'est un terrain qui est plutôt à ta main?
Je te dirais que, tu sais, tantôt quand on parlait de force et faiblesse, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement bonne dans le technique, mais je suis pas quelqu'un qui est extrêmement bonne dans le rapide. Je suis plus comme, tu sais, je suis un entre-deux, fait que ça me faisait pas peur. J'étais pas, tu sais, je me disais pas, c'est beaucoup trop technique ou c'est pas assez technique. Tu sais, c'était vraiment, dans ma tête, c'était juste le parcours et le parcours, puis on fait de notre mieux là, quand ça y est. Mais c'est sûr que vu ce qui est arrivé, puis on va y arriver, là, peut-être un peu moins technique, ça m'aurait aidé là, à la fin de la course.
Est-ce qu'en amont de la course, c'est impensable pour toi de dire que tu vas être sur la réserve et dans la retenue compte tenu de ce qui s'est passé pour toi les années précédentes? Est-ce que tu as cette idée d'y aller à fond, enfin, de ne pas aller contre nature et d'y aller, en tout cas si ce n'est pas à fond, en tout cas de t'écouter pleinement et puis de donner quand même et puis de faire confiance à ton instinct?
Absolument. Je veux dire, moi, c'est toujours ce que je fais. Puis, ça n'a pas été différent là, à l'UTHC. Même que j'ai peut-être été un peu trop à fond au début. Là, je me rappelle les premiers 4 kilomètres. Je pense qu'on les a courus en bas de 4 minutes 10 kilomètres. Donc, on est parti vraiment vite. Puis, mais j'ai du plaisir de A à Z. Là, je regrette absolument rien. Puis, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que si jamais je me construis un calendrier avec des courses A et des courses B, je pense qu'il va vraiment falloir que je me parle là, quand je fais une course B pour essayer là, de gérer un peu.
Tu
ne
peux pas faire que des
la...
courses A, ce n'est pas possible, Marianne. Elles ne peuvent pas toutes être A, sinon il n'y a plus de B.
Exact.
Est-ce que cette reprise, finalement, elle a été source d'une certaine nervosité pour toi en amont? Je ne sais pas, la nuit précédente, est-ce que tu as eu du mal à trouver le sommeil? Est-ce que tu as le cerveau qui cogitait beaucoup pour cette reprise ou est-ce que tu étais très sereine?
J'étais vraiment sereine, mais je t'avouerai qu'il y a quelque chose que j'avais lu un article là, la journée avant, puis probablement que je n'aurais pas dû lire, mais ça m'a pas touché tant que ça. C'est juste que c'est sûr que ça a ajouté un coup de pression de plus. J'avais lu un article qui disait, dans le fond, qui posait la question à savoir si je serais capable de performer à la hauteur de mes performances en 2017. Ce que j'ai quand même trouvé difficile parce que c'est sûr qu'entre 2017 et 2021, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Donc, personnellement, moi, je les prends en considération, mais le monde ne les prend pas nécessairement en considération. Donc, te mettre la pression à savoir est-ce que tu es capable de retourner à ce que tu as fait dans le passé. Puis moi, je ne veux pas vivre dans le passé, je veux vivre dans le futur. Donc, c'est sûr que j'étais très sereine, mais quand même, quand je suis arrivée sur la ligne de départ, je me disais, ouais, ce serait vraiment le fun de pouvoir faire quelque chose qui me réjouit pour que je n'ai pas à vivre dans le passé. Donc, c'est sûr que ça a été une pression qui a joué un peu avec moi, mais une fois que le départ est lancé, tu t'en fous un peu là, de ce qui se passe ou de la pression ou quoi que ce soit. Je pense que tu te lances vers l'avant, puis c'est ça qui est important.
Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette UTHC?
Ben, je m'attendais justement à vivre quelque chose de positif. C'était vraiment ce que je voulais, là. C'était juste pouvoir finir la course puis d'être contente d'avoir fait la course. Mais c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que juste m'aligner sur la ligne de départ, c'était incroyablement positif parce que ça voulait dire que, en quelque part, je croyais que j'étais capable de terminer 125. Puis ça, c'était une victoire que je devais célébrer parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire, là, dans les dernières 4 années, là.
Ça y est, nous sommes le vendredi 10 septembre 2021, en tout début d'après-midi. Le départ est donné, tu nous l'as expliqué. Donc, tu pars très étonnamment bien en tête sur les 4 premiers kilomètres. Jusqu'au kilomètre 15, tu tiens bien l'allure avec un groupe qui est solide et puis tu es dans le top 10 au scratch. Donc, ton début de course est maîtrisé. Quels sont les signaux que tu envoies ce début de course? Tes sensations sont réconfortantes? Est-ce que ça t'incite même presque à pousser encore un peu plus?
Absolument. Là, le début de course, tout s'est super bien passé. T'sais, on était un petit groupe, on jasait, les choses allaient super bien. C'est un sentier très technique que j'avais eu la chance de courir, en fait, là, avec l'organisation préalablement. Les choses se passaient à merveille, en fait, début de course, là.
Jusqu'au kilomètre, à peu près aux environs du kilomètre 15, où tu jasais, effectivement, tu étais en train de discuter avec un camarade et puis tu as une première alerte.
Oui, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et puis je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a comme déconnectée de ce que j'étais en train de faire. Puis au même moment où j'ai répondu, en fait, ma cheville gauche, qui est l'opposé de celle que je me suis cassée, qui vit toujours c'est celle qui est toujours le plus loadée, en fait, c'est celle qui accuse toujours le choc, là, parce que ma droite est trop fragile. Ma cheville, elle est tournée, mais de façon quand même sévère, là. Je me rappelle que ça m'a vraiment donné un coup. Et puis, instantanément, il a fallu que j'arrête de courir. Là. Je me suis mis à marcher, j'ai descendu, puis j'ai laissé passer. On était peut-être un groupe de 5, puis c'est moi qui étais la première en avant. Il a fallu que je me tasse sur le côté, que je laisse passer tout le monde, puis que je me mette à marcher. À ce moment-là, c'est sûr qu'immédiatement, la minute que je suis vie, ça a joué dans mon mental. Tout de suite, j'ai commencé à me dire, mon Dieu, je ne serai jamais capable de finir la course. Je ne peux pas croire que ça m'arrive au 15e kilomètre, blablabla.
À quel moment tu as réussi à reprendre le contrôle de tes pensées, avant même physiquement de pouvoir jauger de l'état? Est-ce qu'il y a un moment où tu as réussi à dire, OK, je souffle, respire, là, c'est pas dit qu'il va se repasser rigoureusement la même chose?
Ouais, non.
Il t'a fallu du temps pour ça?
Non, je te dirais que dans la première minute, tout est arrivé, en fait. Donc, l'émotion négative est arrivée. J'ai réagi en me disant, Marianne, ça se peut aussi que la douleur passe en 30 secondes, il n'y a pas de problème, recommence à jogger tranquillement, on va voir ce qui arrive. Fait que j'ai marché un peu comme, tu sais, en hoblant un peu, là. Après, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai recommencé à courir, j'ai repris le contrôle, mais là, j'ai commencé à stresser en me disant, tu sais, là, il me reste encore 105 km ou 110 km à faire. Comment est-ce que je vais réussir à ne pas me retourner la cheville? Parce que tout le monde sait qu'une fois que tu te tournes la cheville, elle retourne également. Fait que les 5 km qui s'en sont suivis ont été très difficiles de façon mentale parce que je devais pas laisser ma tête aller dans le négatif. Mais après 5 km, la douleur commençait à se dissiper, puis c'était par chance aussi, c'est qu'on arrivait dans un endroit où c'était plus roulant. Fait que c'était sûr que les côtes plus roulantes, j'étais capable d'encaisser le choc, puis il n'y avait aucun problème. Là, j'ai pu rouler. Et puis, ce qui est vraiment plaisant, c'est que j'ai continué d'avancer. Et puis, quand on arrive au kilomètre, environ 30 km, on doit monter le mont des Morios, qui est comme dans le fond la montagne la plus haute là, dans la course. Et puis, en montant le mont des Morios, je suis allée rechercher toutes les gens que j'avais dû laisser. Peut-être pas toutes, là, mais je suis allée rechercher des gens de ce pack-là. Et puis, je suis allée chercher aussi d'autres personnes qui étaient à l'avant. Fait que ça m'a vraiment donné un boost de confiance en me disant, OK, ça va pas si mal que ça. Là. Puis, je pense que c'est vraiment ce qu'on se doit se dire quand on pense que les choses vont pas bien. Ça va jamais si mal que ça. Tu es capable de revenir là, tranquillement.
Pour me donner un ordre d'idée, tu es à peu près sixième à ce moment-là au classement général. Au moment de ce moment-là, ta remontada qui a débuté. Tu continues à surfer sur ce bel élan et les voyants sont ouverts, un peu comme la forêt qui commence à t'entourer entre les kilomètres 30 et 60. Là, ça y est, tu as retrouvé pleine confiance, il n'y a pas de retenue et tu vas vraiment libéré.
Oui, ben, c'est ça la chance que j'ai eue. En fait, c'est qu'entre le 35e et le 60e kilomètre, c'est très roulant. Donc, tu sais, quand tu disais tout à l'heure que le sentier n'était pas trop technique puis que tu étais capable de rouler, c'est vraiment cette portion-là qui est la plus rapide. Parce que c'est des sentiers qui se font super bien, puis la descente, elle va vraiment bien. Fait que ça a été vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est là que je suis allée chercher, en fait, je pense qu'à la fin de ce segment-là, j'étais rendue troisième overall.
Tu t'en mets plein les jambes, mais est-ce que tu t'en mets aussi plein les yeux? Est-ce que le décor est éblouissant? Tu t'émerveilles aussi, t'as le temps ou tu vas trop vite?
Ah non, c'est super beau. Puis tu sais, on a eu la chance aussi. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est que, c'est ça, UTHC ont changé leur heure de départ. Avant, ils partaient le matin, donc la première section, ils ne voyaient rien. Mais c'est merveilleux, là, tu sais, cette section-là de Charlevoix, on dirait pas que c'est... En fait, on dirait que c'est le Québec, mais de façon très sauvage. Donc, c'est le Québec, c'est super beau, super beau.
T'as pas croisé de coyote?
J'ai pas croisé de coyote, mais on a croisé un porc-épic.
OK, c'est pas mal aussi. Ouais. La nuit commence tranquillement à s'amorcer aux environs du kilomètre 60, avec une forêt qui commence aussi un peu à se densifier. Est-ce que le contexte nocturne, c'est un contexte dans lequel tu prends plaisir à évoluer habituellement? Est-ce que pour toi, c'est très apaisant, accomplissant? Est-ce que ça te demande plus de concentration et donc tu étais moins agile, et t'es moins ça? Comment est-ce que tu vis ces passages de nuit?
Moi, j'ai pas de préférence. Si c'est la nuit, c'est la nuit. Donc, on
ça
est
fait
aussi
partie
bien.
De la course. Ouais.
Ça fait partie de la course, puis on en profite. J'ai pas de préférence. C'est sûr que une chose que je trouve super importante la nuit, c'est que tu t'équipes bien d'équipement pour bien t'éclairer, là, ça c'est certain. Ça peut faire une énorme différence. Mais sinon, outre que ça, moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude ou d'appréhension à courir la nuit. Tu fais ton petit bout de chemin, puis à un moment donné, le jour va se lever, puis il sera de nouveau le jour. C'est la seule chose qu'on est certain dans la vie, c'est que la nuit va arriver, mais le jour aussi va arriver.
C'est très symbolique là aussi. j'ai vu des vidéos de toi, notamment sur les ravitaillements. T'es très souriante, comme dans cette interview et dans toutes les images que j'ai pu voir de toi. Est-ce que c'est un état naturel finalement et qui est constant? C'est-à-dire que t'es à tout moment d'une course, il y a vraiment cette idée de plaisir et finalement cette conscience de la chance d'être là qui prend le dessus, ou est-ce qu'il peut quand même t'arriver des moments où tu bougonnes ou tu pioches un peu parce que physiquement c'est plus dur et t'es moins accompli, ou est-ce que c'est de manière générale t'es tout le temps dans le plaisir et t'es dans cette dynamique très positive en toutes circonstances?
Ben, c'est sûr que je suis toujours dans une dynamique très positive, là, c'est ce que j'adore, puis tu sais, je suis très contente d'être là, puis encore une fois, c'était tellement symbolique pour moi cette journée-là que j'étais sur un high un peu, là, je pense à quel moment tu discutes, puis c'est sûr que j'étais tellement contente d'être là, puis juste encore une fois, d'être troisième overall. Je ne m'attendais pas du tout à ça, puis c'était juste très positif comme moment. Donc, de façon générale, je suis toujours quelqu'un qui est extrêmement bonne humeur. Mais comme toute personne, c'est sûr que j'ai un moment où le mal prend le dessus. Là. Donc, on va y arriver ce qui arrive, mais plus tard dans la course, là, j'étais physiquement tellement en douleur que j'avais de la misère à me tenir debout. Donc, c'était plus difficile de garder la joie de vivre, mais je n'irai jamais du côté bougon. Là. C'est sûr que c'est pas du mécontentement que je ressens, mais c'est plutôt la douleur qui fait en sorte que c'est un peu plus difficile d'être expressive.
Et puis c'est nous les Français les spécialistes pour râler, c'est pas vous les Québécois. Nous on est très bons là-dedans. Le kilomètre 80 marque à nouveau un tournant dans la course. C'était pas forcément un des passages les plus techniques. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là, une petite erreur d'inattention peut-être?
Ouais, c'est sûr que c'est une erreur d'inattention, mais c'était aussi un résultat du départ de la course, là, ben, en fait, du 15e kilomètre. En fait, ce qui est arrivé, c'est que tout le long des ravitaillements, je me demandais est-ce que je devrais enlever mon soulier puis taper ma cheville. Et puis avec du recul, il n'y a aucun doute, j'aurais dû faire ça. parce que ce qui est arrivé dans le fond au 80e kilomètre, c'est que je descendais un sentier forestier là, qui est dans le fond une route de gravelle en quelque sorte. Il y a beaucoup de roches dessus, mais rien de technique à comparer des autres choses qu'on avait vues dans la course. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais dans le fond, ma cheville, elle a tourné, mais vraiment plus loin. Là. Je me rappelle que j'avais l'impression que ma cheville était allée en dessous de mon pied. Là. Et puis, j'ai senti un gros déchirement, en quelque sorte. Là. J'ai senti un bruit. Et puis, la douleur qui après ça, était en quelque sorte insoutenable. Là. Donc, là, à ce moment-là, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je m'assoie. Et puis là, c'est quand même assez particulier parce qu'il devait être minuit environ. J'étais assise toute seule dans un sentier forestier, puis il y avait personne à l'horizon. Là. Fait que dans ces 5 minutes-là qui a suivi, ça a été très difficile parce que là, à ce moment-là, je me suis demandé si j'allais être capable de terminer la course parce que j'étais tellement en douleur que je pouvais pas me lever puis je pouvais pas considérer mettre du poids dessus. Fait que j'ai laissé passer le temps. Encore une fois, au bout de 5 minutes, j'étais encore toute seule, j'avais personne. Ben, j'ai décidé, je vais me relever puis au moins essayer de marcher pour voir si je suis capable de me rendre à l'arrivée. Et puis, j'ai commencé à marcher. Puis, petit à petit, la douleur s'est comme dissipée un peu. J'ai attaché mes souliers le plus serrés. Je me suis dit, si jamais j'enlève mon soulier, mon pied va gonfler. Là, j'ai déjà eu des déchirures. J'ai attaché mon soulier le plus serré possible puis j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin. Et puis, quand j'ai vu que j'allais être capable de marcher, tu sais, au moins emboîtant un peu, je me suis dit, j'ai pris la décision à ce moment-là, je vais me rendre à l'arrivée, peu importe ce qui arrive. Et plus j'avançais, moins la douleur était grosse, mais j'avais toujours pas le contrôle sur ma cheville, puis il restait quand même un bon 45 km à faire. Mais j'étais capable de trottiner, et puis éventuellement, j'étais capable de jogger, puis les montées, ça allait quand même bien. Fait que je montais de façon quand même assez soutenu, mais les descentes, c'était assez horrible, là, je te dirais. J'avais aucun contrôle sur ma cheville, puis j'étais pas capable de vraiment mettre mon poids dessus parce que si elle allait pas directement droit, elle retournait parce qu'elle était pas du tout tapée ou rien de tout ça. Fait que compléter la course, ça a été quand même assez demandant.
Est-ce que ces kilomètres d'après, tu as commencé un peu à faire tes calculs et puis à essayer de revoir tes objectifs ou est-ce que tu n'es pas tellement dans cette logique-là d'imaginer peut-être essayer de préserver ta position et de rester en tout cas première féminine sur la course. Est-ce que ça reste ton combat ou est-ce que c'est plus ça le sujet et l'idée c'est juste de se donner les chances d'aller au bout?
L'idée c'est vraiment la chance d'aller au bout, mais ce qui est arrivé c'est quand j'étais capable de continuer d'avancer, je commençais à me dire, mais mon Dieu, ça va pas si mal que ça. Et puis quand je suis arrivée comme autour du kilomètre 100, là je me suis dit, ok, mais là je suis pas si... je commençais à me dire que probablement que la première marche du podium était inatteignable, mais j'étais encore en première position. Donc, je me disais, tout dépendamment quand est-ce que la deuxième femme me rattrape, je vais pouvoir évaluer si la deuxième ou la troisième place va être encore sur la table. Mais d'un autre côté, je pouvais avancer seulement par rapport à mes limites. Là. Je pouvais pas, en fait, ce qui est arrivé, c'est que là, la première femme m'a dépassé entre le kilomètre 100 et 106. Là. 106, il y a un ravitaillement. Puis elle m'a dépassé dans l'endroit où tu pouvais descendre quand même assez rapidement. C'était pas trop technique. Puis tu sais, je l'ai vu passer là, puis c'était impossible pour moi de de même considérer aller à cette vitesse-là. Là. Donc, c'est sûr que là, j'ai mis un X là-dessus.
Que tu acceptais bien le fait de mettre cette croix là sur cette idée-là, c'était facile à accepter? Tu étais raisonné par rapport à ça?
C'était très facile parce qu'il n'y avait aucun doute. Il n'y avait même pas un doute dans ma tête que je pouvais essayer. Là. C'était même pas... Elle est passée vraiment en courant, tandis que moi, j'étais à peine capable de marcher. Là. Je joguais un peu, mais il n'y avait aucun doute que je n'allais pas être capable d'aller avec elle. Donc, j'ai accepté ça très rapidement. Je suis arrivée au ravitaillement, puis là, l'objectif, c'était d'arriver deuxième. Je m'étais comme mis dans ma tête, « OK, c'est beau, maintenant, le nouvel objectif, c'est d'arriver deuxième. » Puis j'ai demandé à ma crew, j'ai dit, « La troisième, elle est où? » Et puis, ce qui est drôle, c'est que ma crew a refusé de me dire où était la troisième. Puis, j'étais un peu comme, là, rendu là, il était rendu peut-être 3h du matin, là, je sais pas il était quelle heure, mais tu sais, c'est sûr que j'étais un peu, j'étais pas toute là. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai accepté l'information. J'ai juste dit, « OK, puis je suis partie. » Puis là, en montant par après, j'ai dit « Pourquoi j'ai pas insisté pour demander? » Tu sais, au moins pour que j'aie une idée. Parce qu'après ça, j'ai couru tout le dernier comme 20. Puis tu sais, j'essayais juste de monter un peu. Mais comment? Tu sais, quand tu montes puis t'as une blessure, fait que j'étais comme un peu toujours en train de faire... de compenser d'un côté. Mais tu sais, finalement, j'ai été capable de maintenir ma place puis je me suis rendue, là, mais... c'était assez, assez c'était plus stressant là, les derniers 20 km, disons.
Tu jetais les coups d'œil au-dessus de ton épaule régulièrement?
Absolument.
Donc, tu réussis à préserver cette deuxième place féminine et puis tu arrives cinquième au scratch après 16h et 53 minutes d'effort. Mm-hmm. Et donc, c'est deux faux pas, sans mauvais jeu de mots. Quel est le sentiment qui prime? C'est beaucoup de satisfaction d'avoir préservé... ce résultat qui est quasi inespéré au regard du contexte, c'est vraiment ça qui prend le dessus au moment où tu franchis la ligne d'arrivée?
Ouais, j'ai vraiment reçu... j'ai aucun sentiment négatif après terminer. Là. C'était pas... j'étais juste contente d'avoir pu terminer. Ça, c'était la première chose qui me remplissait de bonheur. Mais en deuxième lieu, c'est sûr que je suis pas insatisfaite avec une deuxième place puis une cinquième place overall. Quand quelque chose de négatif t'arrive, il faut aussi que tu prennes ça en considération puis tu dis, c'est ce qui est arrivé cette journée-là, c'est arrivé. Puis j'ai vraiment livré le meilleur que je pouvais là, cette journée-là. Donc, j'étais nullement déçue. Ce qui m'a déçue, par contre, c'est la récupération par la suite. Là. Après ça, il a fallu que je recommence. Là. J'ai fait 2 semaines sans course, puis recommencer, ça a été assez douloureux. Puis ce processus-là de revenir, ça a été quand même assez difficile. Mais l'émotion de terminer la course puis de ce que j'en pensais, c'était très positif.
T'as très vite pensé justement aux conséquences, là, une fois l'énergie de la course, l'adrénaline qui retombe un peu, tu t'es quand même assez vite fait reprendre par ces perspectives et ce doute que puisse y avoir un nouveau cycle.
Oui et non, parce que dans le fond, la course que j'avais par la suite, c'était l'UTCT, l'Ultra Trail Cape Town, en novembre. Donc, dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais je me suis juste dit, il n'y a pas de problème, en novembre, je vais être correct. Fait qu'immédiatement, c'est ce que je me suis dit. Mais le processus a été très long quand même. Là. Ça a été très difficile pour moi de retourner en trail. Puis encore une fois, j'avais zéro contrôle sur ma cheville. Puis tout ça, le processus de revenir, encore une fois, a été plus long que prévu. Puis je pense que c'est ça qui arrive aussi quand t'es positive. T'sais, quand t'es positive puis tu dis ça va, tout va bien se passer, c'est sûr que quand les choses ne se passent pas nécessairement à merveille, tu dis « Ah, c'est un peu plus long que prévu ».
Ta façon d'être positive, c'est aussi de te projeter tout de suite sur d'autres rendez-vous, c'est ça, de recréer des objectifs de façon régulière pour être toujours dans... cette idée d'avancer?
Oui, ben j'aime ça avoir quelque chose à l'horizon. Donc, tu dis, OK, je m'en vais vers là. Mais j'aime pas ça non plus me stresser avec tout plein d'événements. T'sais, j'aime ça savoir que dans 2-3 mois, j'ai ça. J'ai le temps de me préparer. Ça se passe bien. Mais j'ai pas besoin de quelque chose à chaque 2 semaines pour me garder motivée. Je suis vraiment quelqu'un qui aime le processus, comme j'ai mentionné. Mais me projeter dans un futur semi-éloigné, j'aime ça quand même.
Pour revenir sur le résultat, juste dire quand même que Jenny a terminé donc première femme et elle a fini deuxième au scratch. Voilà.
Ouais.
Pour donner l'issue de sa course à elle.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris ou qu'est-ce qu'elle a conforté sur toi? Enfin, qu'est-ce qu'elle t'a permis de comprendre? Est-ce que c'était une libération aussi de voir que tu pouvais retrouver quand même ce niveau de performance qui a été un peu contrarié par des éléments exogènes? Mais voilà, en tout cas, de te dire que tu étais tout à fait... à ta place, que tu retrouvais le plaisir que tu avais il y a quelques années plus tôt. Tout ça était encore bel et bien là?
Ouais, absolument. Je pense que tu sais, c'est comme la pression que j'ai ressentie avant la course, puis le doute que j'avais en quelque sorte dans ma tête, à savoir, tu sais, est-ce que j'en suis encore là? Est-ce que je suis encore capable de faire ça? Je pense que tout ça s'est confirmé à l'UTHC, puis ça m'a ramené dans un endroit où je me sentais vraiment bien avec ce que je pouvais faire, puis ce que je veux faire. Donc, c'est sûr que pour moi, la course a eu un énorme impact là, pour ma saison, tu sais, la saison qui a suivi, puis juste le mental et le processus de tout ça. Donc, c'est pourquoi l'UTHC a joué quand même un grand rôle là, à mon retour, là, sans aucun doute.
S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cette UTHC? C'est laquelle tu penses là maintenant tout de suite?
Ouais,
C'est le
c'est
ravito
vraiment.
avec la famille, les proches?
Oui, le ravito 1, absolument. Mais je te dirais, pour moi, le moment le plus fort, c'est quand le départ a été lancé. Tu sais, le départ a été lancé, puis j'étais tellement contente de courir que. Pour moi, c'est magique, là, t'sais, c'est comme ça faisait 4 ans que je voulais courir. Ça faisait 4 ans que j'attendais l'opportunité de me retrouver sur une ligne de départ. Puis quand le départ s'est lancé, je me rappelle juste avoir couru. On courait tellement vite, puis l'effort était tellement, t'sais, dans ma tête, je courais peut-être à 5 minutes du kilomètre, là. J'étais vraiment pas en train de courir vite. Puis c'est par après que je suis retournée voir, puis j'ai dit, mon Dieu, on est parti quand même vite, là, puis je m'en étais pas rendu compte. Donc, c'est sûr que oh non, moi, c'est une émotion très, très forte qui était extrêmement positive. Là, tu sais, le départ s'est lancé, puis let's go, on y va.
Est-ce que je peux te demander ce que tu fais le deuxième week-end de septembre 2022?
Ben, je vais retourner à l'UTHC, mais je ne sais pas sous quelles conditions encore parce que je vais courir l'UTMB cette année aussi. Fait que je vais voir dans quel état seront mes jambes et dans quel état sera mon esprit. Mais c'est sûr que dans tous les cas, je vais soit y aller pour faire la crew. Le support ou du bénévolat, on va voir. Ou peut-être courir une plus petite distance, on verra.
L'UTMB, c'est une course qui te fait particulièrement envie.
Oui, absolument. Absolument. Ben, en fait, maintenant que j'ai la capacité de courir, toutes les courses me font envie. Mais l'UTMB, c'est sûr que c'est une course que, encore une fois, j'aurais voulu faire là, beaucoup plus tôt dans ma carrière, mais que c'est juste cette année que je peux me permettre ça.
Avant cette UTMB, il y a une grosse course de référence qui te tend les bras, qui est un gros morceau, qui est
Ouais.
la Western. Pour laquelle tu t'es qualifié grâce à un golden ticket que tu n'as pas eu dans une chocolaterie, mais que tu as eu grâce à ta victoire en janvier dernier sur la Bandera, une
Ouais.
course de 100 km aux États-Unis, c'était en début d'année. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être sur la Western?
Écoute, la Western, pour moi, ça, c'est un rêve que j'avais là, depuis quand j'ai commencé à faire l'ultra, là. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. D'autant plus que moi, j'adore la chaleur. J'adore vraiment la chaleur. Et puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'aime ça, les longues descentes. Mais c'est aussi l'historique que le Western States amène. Et puis, je me suis toujours dit, tu sais, que je veux toujours me lancer les plus gros défis que je peux me lancer. Et puis, je me suis dit, je vais essayer d'avoir un golden ticket. Puis, si ça marche, on y va, puis on y va à fond. Donc, moi, cette année, je m'étais inscrite à les 3 courses golden ticket. Puis, j'ai eu la chance de l'avoir, la première course que j'ai faite, mais c'est sûr que je me suis lancée dans la course là, de la même façon que je me suis lancée dans l'UTHC. Là, tu sais, je suis partie à fond sur le 100 km, puis j'ai jamais regardé derrière. Là, donc, puis ça a donné ce que ça a donné, puis je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Puis j'ai vraiment hâte de voir là, qu'est-ce qui va se passer le 25 juin parce que tu sais, j'ai l'enthousiasme qu'il faut, ça c'est certain.
La course, elle est dans un mois pile, quasiment, enfin un jour près.
Ouais.
T'es satisfaite de ton état de forme là, un mois près cette... Et puis en termes d'objectif, est-ce que à nouveau, l'idée, c'est pas tant une place, c'est d'essayer de faire le mieux que tu peux et que imaginer que tout aille bien et que tu tiennes la distance sans trop souffrir?
Ouais, absolument. Je suis quand même satisfaite de mon état de forme. La seule affaire, c'est qu'il m'est arrivé vraiment quelque chose de plate, là. En fait, en mars, mi-mars, je suis allée courir sur la rue, là, vraiment, t'sais, il n'y avait pas de risque, ou pratiquement pas. Mais j'ai pilé sur une plaque de glace sur le gazon, puis j'ai tombé. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai disloqué mon os entre la jambe et la cheville. Et puis, depuis ce moment-là, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec ma cheville gauche, qui est encore ma cheville problématique. Puis c'est ça l'affaire, c'est que quand tu te blesses une fois, surtout au niveau des ligaments de la cheville, tu es toujours plus propice à te reblesser. Donc, je te dirais que ma préparation a pris une tournure tout différente. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de millages sur la route plutôt qu'en trail. Mais j'espère que dans le dernier mois, je vais être capable de peaufiner là, les choses que je dois peaufiner pour pouvoir arriver là. fin prête, là, le 25 juin, mais j'ai vraiment été capable de faire le maximum de ce que j'ai pu faire. Puis je me dis aussi que la façon que je m'en allais, c'est que j'étais vraiment en pleine forme le mi-mars, puis je me disais que si je continuais dans cette lignée-là, peut-être que j'aurais trouvé mon pic avant la Western States, puis c'était pas l'objectif. Donc, on va voir ce qui va arriver, puis j'ai hâte quand même là, de prendre le départ.
Si on se projette à plus long terme, est-ce qu'il y a un défi, une course, une aventure qui te fait particulièrement envie, peut-être un rêve de gosse, ou voilà, quelque chose que tu aurais envie de vivre à tout prix? Est-ce que il y a un projet de cette envergure-là qui te tient particulièrement à cœur et que tu voudrais un jour accomplir dans ta vie?
J'aimerais beaucoup me relancer sur une course à étapes en binôme. Il y en a beaucoup qui me viennent en tête, mais il y a beaucoup de courses à étapes qui me viennent en tête, mais j'en ai pas une en tant que telle. Tu sais, je pense que je vais prendre les opportunités comme elles se présentent, puis voir un peu. J'aime ça me projeter dans le futur, mais dans un futur assez rapproché. Donc pour moi, c'est vraiment facile de focusser sur Western States puis l'UTMB. Puis même en ce moment, tu sais, je focus juste Western States, puis je pense pas du tout à l'UTMB. Donc, c'est par la suite que ça va arriver. Donc, c'est un peu comme ça que je vois pour le reste des choses. Mais c'est certain qu'une course en binôme ou une course à étapes, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que ça amène une dynamique aussi d'une course qui est vraiment le fun parce que tu suis des gens pendant une semaine complète. Donc, tu as non seulement le partenaire avec qui tu cours, mais tu as aussi... Les gens avec qui tu fais la course, que tu apprends à connaître au quotidien. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aimerais refaire.
C'est ma dernière question de l'épisode. C'est le moment du motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui illustrerait ta philosophie de vie ou la façon dont tu appréhendes ta pratique?
Ben moi, le motto que j'aimerais que je vis, puis je me le dis toujours en anglais, là, puis je ne sais pas c'est quoi la traduction exacte, là, mais je dis toujours « choose to be optimistic ». Parce que je pense vraiment que être positif, c'est un choix. Puis que, en fait, voir la vie de façon positive va toujours t'aider. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a jamais une fois où voir la vie de façon négative t'amène du positif. Donc, c'est vraiment ma devise par rapport à tout. Là, t'sais, s'il y a quelque chose de négatif qui m'arrive, ben, comment est-ce qu'on peut tourner ça en positif? Autant dans la course à pied que dans la vie. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qui est propre, qui peut être utilisé par tout le monde. C'est la devise que je choisis là, d'avoir là, dans ma vie au quotidien.
Donc, c'est pas court comme une dinde, ta devise au quotidien.
Non, ça se fait de façon naturelle. J'ai pas besoin de me répéter.
Merci, Marianne. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton parcours de vie et de sportive et puis d'avoir donné également à entendre la façon dont tu as géré tes différentes blessures au fil des années. La blessure, même si elle est souvent très difficile à accepter pour... chacun d'entre nous, elle fait partie intégrante de la course à pied. Puis ton exemple et ta détermination, elle montre combien, après des jours parfois un peu plus sombres, les lendemains peuvent à nouveau chanter si on garde espoir. Donc c'est aussi extrêmement positif, je trouve, comme message à transmettre à nos auditeurs. Voilà, je suis vraiment ravi en tout cas d'avoir pu mettre en lumière ton histoire et ta personnalité qui est vraiment attachante. Voilà, je suis content que nos auditeurs te découvrent pour certains ou voilà, on apprenne un peu plus sur toi pour ceux qui te connaissaient déjà. Puis je t'envoie plein de bonnes ondes pour ton grand rendez-vous du 25 juin à la Western. Je ne doute pas que de ce côté de l'Atlantique, les auditeurs de course épique qui ont fait connaissance avec toi aujourd'hui te suivront avec la plus grande attention et moi le premier. Je t'envoie plein de bonnes ondes et je te souhaite le meilleur pour ce grand rendez-vous en attendant les suivants.
Mais merci beaucoup, ça fait un grand plaisir.
Merci, à bientôt Marianne.
Bye.
Bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.